Chapitre 46. Lucie se rongeait les ongles jusqu'au sang, assise dans la voiture banalisée garée à une cinquantaine de mètres du territoire du néant. Son cœur s'était serré à la fermeture des portes de l'établissement, puis quand les fêtards avaient disparu le long des trottoirs et que le silence avait repris possession des lieux, elle avait espéré jusqu'au dernier moment que Franck sorte. Pascal aussi était sur les dents. Droit sur son siège, ses yeux fatigués rivés sur l'écran de son portable. Sur la carte affichée, un point rouge aurait dû indiquer très précisément la position de Charcot, mais le signal avait cessé d'émettre depuis plus d'une heure. Avant que le contact soit rompu, ils avaient seulement cru comprendre, par l'intermédiaire du micro, que Charcot s'aventurait dans les catacombes. Les catacombes. Rien que le mot fichait la chair de poule. Franck errait sans doute quelque part, sous terre, dans un labyrinthe qui se déployait sur des kilomètres, et il n'avait aucun moyen de le localiser. Immédiatement, il s'était renseigné sur Internet pour savoir si les cataphiles, qui passaient leur vie à explorer tous ces boyaux, avaient recensé un accès du côté de la rue de la Tombissoire. Mais leurs requêtes avaient toutes été infructueuses.
« Je ne sais pas quoi faire, Pascal. Jamais on n'aurait dû le laisser seul. »
Robillard tenta de garder le contrôle, mais Lucie voyait bien la contraction anormale de ses mâchoires.
Franck en a déjà vu d'autres. Il trouvera une solution pour s'y tirer de là.
Bien sûr qu'il en avait déjà vu d'autres. On ne traversait pas 30 ans de police criminelle sans encombre, mais là, c'était différent. La mort les pourchassait depuis le début de cette fichue enquête, et tout ce que la flic souhaitait maintenant, c'était pouvoir de nouveau serrer son mari dans ses bras. Elle décida d'aller prendre un peu l'air, incapable de rester en place. Encore une fois, elle passa devant la gueule effroyable du Léviathan. Elle voyait bien, entre les mailles de fer du rideau, que l'obscurité enveloppait l'endroit, comme si le monstre somnolait. Le territoire du néant était vide, complètement vide. Il n'y avait rien d'autre à faire que patienter, espérer. Et cette passivité la rendait folle.
Lucie !
Pascal était à son tour sorti de la voiture et agitait les bras. Elle se rua dans l'habitacle. Sur l'écran, le point rouge clignotait et bougeait. Une fraction de seconde, elle ressentit un immense soulagement, enfin des nouvelles de Franck. Mais son ventre se noua lorsqu'elle localisa le signal. Il émettait à plusieurs dizaines de kilomètres de là, sur la 6, au niveau de Chilly-Mazarin.
« Il y a un truc qui a dû merder avec cette fichue puce GPS »,
cracha Robillard.
« Qu'est-ce que t'attends ? Fonce !»
Ni une ni deux, Pascal mit le contact et s'engagea rue d'Alésia, dans un crissement de pneus. L'esprit de Lucie carburait à plein régime. Charcot était dans un véhicule qui filait à 130 km/h alors que ça faisait plus d'1h30 qu'il n'avait pas donné signe de vie. S'il avait été libre de ses mouvements, il les aurait prévenus d'une manière ou d'une autre. Peut-être se laissait-il conduire quelque part sans essayer de les joindre, de peur de se faire repérer. Ou peut-être l'emmenait-on de force.
Lucie tourna le bouton de la radio presque à fond et recula dans son siège, les mains sur le front. Les enceintes diffusaient un vieil air de jazz. Tout plutôt que cet insupportable silence.
« Ils sortent à Nemours !» commenta Pascal. « Ils ont 23 minutes d'avance sur nous. »
23 minutes d'angoisse. Il pouvait s'en passer des choses en 23 minutes. Robillard explosait les limites de vitesse autorisées, déclenchant radar sur radar. Leurs prédécesseurs s'élancèrent sur une départementale qu'ils quittèrent quasiment dans la foulée, s'enfonçant toujours plus dans la campagne. Subitement, le signal s'immobilisa. Les flics, eux, quittaient à leur tour l'autoroute à Nemours, à un gros quart d'heure de là. Ils avaient un peu réduit la distance, mais ça restait trop. Puis, le cercle se déplaça encore, mais avec lenteur. Lucie serrait le téléphone de Pascal entre ses mains. Elle zooma.
Ils doivent être à pied maintenant. Il n'y a que de la flotte et des arbres par là-bas. Sans doute des étangs ou des marais. Où est-ce qu'ils vont, bon sang ?
Leurs phares découpaient la nuit, au milieu des immenses étendues noires de champs et de forêts. Ça faisait 5 minutes que le signal s'était totalement figé, et il suffit d'un clignement de paupières de Lucie pour que celui-ci disparaisse de nouveau. Pascal le remarqua du coin de l'œil
et remonta son regard vers sa coéquipière qui haletait. Les larmes mouillaient ses yeux. Le pire des scénarios était en train de se dérouler, juste là, devant elle.
« Encore 10 minutes, Lucie. 10 petites minutes. On va retrouver Franck sain et sauf, d'accord? On sait où il est. Repère bien l'endroit, surtout. Et guide-moi. »
Elle hocha la tête avec résignation. Pascal prit un virage serré et bifurqua après un temps qui lui parut infini sur une route étroite. La végétation se densifiait, mangeait les abords du bitume. Les marécages les engloutissaient. Ça et là, entre les arbustes, des langues d'eau surgissaient comme des lames de couteaux scintillantes.
9 minutes qu'ils avaient perdu le signal. Et toute cette eau sombre, épaisse, ne leur disait rien qui vaille.
Lucie indiqua de tourner dans un chemin à peine visible. Pascal s'y engagea et au bout de 100 mètres, constata que la voie était une impasse. Partout autour, la nature avait repris ses droits, crevant l'asphalte. Une fois les phares et le moteur coupés, ils sortirent, armes en main, au milieu de nulle part.
« T'es sûr que c'était ici ?»
demanda Pascal en allumant une lampe torche.
« Oui. Ils ont dû descendre de leur véhicule et s'enfoncer par là. »
Pascal balaya les environs. Désert.
« Si tu ne te plantes pas, c'est qu'ils ont déjà fichu le camp. On a dû les rater de peu. »
Les deux policiers se regardèrent avec effroi. Ils pensaient la même chose. Le micro et le boîtier GPS avaient certainement été découverts et détruits. Les ravisseurs de Charcot avaient alors paniqué et avaient déguerpi. Mais ils n'auraient pas pris le risque de laisser un témoin derrière eux. Surtout un flic.
Lucie se mit à courir dans le maigre espace entre les arbres avec un sinistre pressentiment. « Mon Dieu, non, 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 non !» Ses forces commençaient à l'abandonner. Or, elle ne devait pas flancher.
Dans sa course, le rayon lumineux de sa lampe heurta la façade d'une cabane en ruine, mangée par des lianes, des ronces, du lierre. Une odeur de vase, mêlée à celle du bois pourri, flottait dans l'air. La porte d'entrée était grande ouverte. Elle s'y précipita avec l'impression que son cœur allait lâcher d'un instant à l'autre. Au moment où elle franchit le seuil, une main puissante vint lui serrer la gorge et lui coupa la respiration.